C'est un peu faible. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu ce matin?
Oui.
Savez-vous que la Bible, c'est Dieu qui vous parle?
Oui.
Et une parole de Dieu peut changer votre vie pour toujours. Amen? Et c'est pourquoi on aime faire cette déclaration. Si vous avez votre Bible, on va prendre la Bible. Si vous n'avez pas une Bible, on a une feuille qu'on vous a donnée avec les versets qu'on va lire. On va faire cette déclaration. Voici ma Bible.
Voici ma Bible.
Si la parole est inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de Dieu. Je serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours changé. Wouh! Si vous le croyez, vous pouvez pousser un cri de joie. Amen. Alléluia. Donc, ce matin, ça va être un peu différent peut-être comme message, mais j'avais vraiment à cœur qu'on avait besoin de partager ce message basé sur Hébreux chapitre 12. Donc, si vous voulez ouvrir votre Bible à Hébreux chapitre 12, et on va parler de comment aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller jusqu'au bout avec le Seigneur? Moi, je veux pas aller à 50% ou à 80%, 90% non plus, mais moi, je veux aller jusqu'au bout. Je veux finir qu'est-ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et ça, c'est pour ma vie personnelle, en tant que chrétien, en tant que mari, en tant que père, en tant que pasteur. Je veux aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller jusqu'au bout avec le Seigneur? Et en tant qu'église locale aussi. Je sais que nous ne sommes pas ici par hasard, mais Dieu a un plan, Dieu a un but, il y a des projets que Dieu a formés sur nous en tant qu'Église, et ce sont des choses que Dieu avait dans son cœur avant la fondation du monde. Il savait qu'on serait là aujourd'hui, il a un plan pour nous. Il a une vision. La vision de cette Église, c'est pas notre vision, c'est sa vision. Et j'ai hâte parce que au début de 2004, d'habitude, en janvier, après les fêtes, je partage un message concernant notre vision, notre mission et les objectifs que le Seigneur nous donne pour 2004. J'ai hâte de partager ça. Mais sachez ceci, que la vision que Dieu nous a donnée, c'est pas l'idée d'un homme. C'est pas une vision juste du pasteur. C'est la vision de Dieu qu'il a transmise au pasteur. Amen. Et c'est-à-dire que c'est destiné pour le succès. Et qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on accomplisse. Il veut qu'on réalise à 100%. Tout son plan pour notre Église. Amen? Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 1. Et je crois et je ressens dans mon cœur, je sais qu'il y a des personnes que vous avez vraiment le goût d'aller jusqu'au bout, mais on sait en même temps que ça ne serait pas toujours évident. Il y aura des obstacles, il y aura des choses, les attaques, les contre-attaques de l'ennemi. Après chaque victoire, il y a toujours un contre-attaque de l'ennemi. Est-ce que vous savez? Et je pense qu'il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt. On a eu beaucoup de victoires dernièrement. Mais laisse-moi vous dire, je sais et j'entends des choses qu'il y a beaucoup de contre-attaques aussi de dernièrement. N'est-ce pas vrai? Mais on n'a rien à craindre. Au contraire, nous sommes ceux qui sont destinés pour le succès et on va courir vers le but et on va remporter le prix. Donc, lisons Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Bonne parole, n'est-ce pas? Voyez-vous qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on soit capable de courir jusqu'à la fin, jusqu'au bout, dans le but vraiment de remporter le prix, sans jamais se laisser décourager dans notre âme, dans nos pensées, dans nos émotions. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit avait besoin d'inspirer ce verset d'Écriture? Moi, je suis convaincu, c'est pas parce qu'il manquait des choses à mettre dans la Bible, c'est parce qu'il voulait remplir un peu plus d'espace, il voulait que notre Bible soit un peu plus épaisse, avec un peu plus de feuilles. Est-ce que vous croyez que c'est pour ça? Je crois que c'est parce que Dieu savait qu'on aurait besoin de cette parole aujourd'hui. La Bible est claire que toute écriture est inspirée de Dieu et toute écriture est utile. Donc, ce verset est utile pour nous aujourd'hui. On a besoin de savoir que nous sommes appelés à courir avec les yeux fixés sur Jésus, vers le but, avec persévérance, et il ne faut pas se laisser décourager par les circonstances de la vie. Amen? On devrait avoir la joie, on devrait avoir un esprit de victoire, on devrait avoir vraiment une air de courage. Quand les gens nous voient, ils devraient dire, « Waouh, il y a quelque chose de différent avec les membres de cette église. » Eux autres ne sont pas découragés, même s'ils entendent les mauvaises nouvelles. Amen? Parce que on est entouré par la mauvaise nouvelle. Vous êtes d'accord? Des personnes qui veulent manifester, des personnes qui veulent aller faire des grèves, les personnes qui parlent de l'économie qui va pas tellement bien. Il y a des personnes qui parlent d'une épidémie de la grippe qui s'en vient. Il y a toutes sortes de mauvaises nouvelles qui nous entourent. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais si on s'arrête là, si on commence à regarder la mauvaise nouvelle, on va se décourager vite. Mais par contre, si on garde nos yeux sur Jésus et on court vers le but pour gagner, on va jamais se laisser décourager et on va vaincre. Et le monde va voir en nous un exemple de ceux qui sont les plus que vainqueurs. Donc regardons 1 Corinthiens chapitre 9, c'est dans vos notes aussi. Intéressant, l'apôtre Paul a écrit ceci. Sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, il donne encore une fois la comparaison, l'exemple de quelqu'un qui, un athlète, qui court dans une stade. En verset 24 de 1 Corinthiens 9, « Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. » Regarde bien, « Courez donc de manière à remporter le prix. » Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite, mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est pourquoi je cours, les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc ici, nous avons l'image d'un athlète qui court. Et la Bible dit qu'on doit courir d'une façon pour gagner. C'est-à-dire que, encore, c'est pas par hasard que Dieu a inspiré ce verset. C'est parce que nous avons une tendance à lâcher. On a une tendance à se décourager. On a une tendance à dire, bon, mais que sera, sera. On va prendre la vie comme elle arrive. Au lieu de prendre vraiment le contrôle de notre destinée, au lieu de dire, voici qu'est-ce que je vais faire, voici qu'est-ce que je vais accomplir, voici où je vais aller avec ma vie, je vais faire qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Il y a trop de chrétiens qui se laissent diriger par les circonstances de la vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Ils écoutent les nouvelles? Bon, ça va être comme ça. Et il y a des personnes qui se laissent conduire par la température même. Bon, il fait pas tellement beau, ça va pas être une belle journée aujourd'hui. Laisse-moi vous dire que la température n'a rien à voir avec votre bonheur. Amen? Physiquement, oui. Physiquement, oui. Je sais que dans le naturel, il y a certaines choses qui se passent au niveau de notre cerveau, au niveau de notre corps physique, que quand le soleil ne brille pas, on a une tendance naturelle à être plus déprimé. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais quand il fait beau, ah, on est heureux. Mais on ne devrait pas se laisser diriger par les émotions. J'aime tellement qu'est-ce qu'un homme de Dieu, Smith Wigglesworth, vous avez entendu parler de lui. Lui, il avait une habitude. C'est un gars qui il vivait au début du 20e siècle en Angleterre. Il avait un ministère de puissance autour de 30 personnes ressuscitées d'entre les morts dans son ministère. Quelque chose, n'est-ce pas? Mais savez-vous, il avait une habitude, quand les gens lui demandaient « Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? » Il a dit « Je m'affiche de comment je me sens. » Hein? Je ne me pose même pas la question. Moi, je dis à moi-même comment je vais me sentir à tous les jours. Et c'est ça, il a dit, la première chose que je fais en me réveillant le matin, je me mets heureux dans le Seigneur. Je me mets heureux dans le Seigneur. Je prends un temps pour me réjouir, même si je n'ai pas le goût de me réjouir. Je dis à moi-même comment je vais me sentir. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Et je pense qu'on a besoin d'apprendre quelque chose là. Ce n'est pas une question de se laisser guider ou diriger ou contrôler par les émotions, par la température, par les circonstances, par les nouvelles. Non, Dieu nous a donné déjà une bonne nouvelle et j'ai raison de me réjouir, peu importe qu'est-ce qui se passe autour de moi. La joie, c'est un choix. Amen. Alléluia. Donc, comment est-ce qu'on peut courir vers le but? Comment est-ce qu'on peut accomplir et réaliser le plan de Dieu? Comment est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous donner cinq choses. Cinq choses que nous voyons en Hébreux chapitre 12. Et je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour expliquer chaque chose, mais je vous encourage à méditer ces versets à la maison. Mais on voit dans ce verset vraiment une recette pour le succès. Et la première chose que nous voyons, que si nous allons courir jusqu'au bout et remporter le prix, il faut courir, on peut dire courons avec pureté. Tout le monde dit pureté. Première chose que nous voyons, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, comme la Bible en français courant dit, quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. On va arrêter là. Ça parle de quoi et ça parle de qui, cette grande foule de témoins? Non. Savez-vous, c'est tous les héros de la foi qui sont déjà rendus au ciel. Si on lit Hébreux chapitre 11, on a une liste des héros de la foi. Il y a l'histoire de Moïse, de Noé, de Samson, Gédéon, tous ces personnages de la Bible que nous croyons sont vraiment des bonnes personnes, des bons exemples à suivre. Toutes ces personnes qui sont déjà rendues au ciel, qui ont déjà terminé leur course, qui sont déjà allés jusqu'au bout, ils sont maintenant rendus au ciel. Et nous avons cette image de une foule de personnes qui sont assises dans une stade et qui nous regardent, nous qui sommes encore sur la terre et nous qui courons ici dans la course de la vie chrétienne, on sait que maintenant même, Noé, Moïse, David, on sait que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, on sait que tous ces apôtres, toutes les personnes, les hommes et les femmes de la foi, sont en train de nous regarder, et je suis sûr et certain qu'ils sont en train de dire, allez-y, ah, vous êtes capables, allez-y, go, go, let's go. Amen? Hein, Gabriel, t'es capable, lâche pas! Amen? Alice, vas-y! Daniel, continuez, lâchez pas, vous êtes presque rendus! N'est-ce pas encourageant? Si seulement on pourrait entendre qu'est-ce qui se passe au ciel maintenant. Vous avez presque terminé votre baptême, lâchez pas maintenant. Amen. Parce qu'on sait qu'est-ce qui va arriver, la baptême va être remplie d'âmes. Des personnes qui vont être sauvées, guéries, hein, qui vont être baptisées du Saint-Esprit, formées pour le ministère. Lâchez pas. Amen. Continuez. Et vous avez presque réglé vos problèmes de mariage, lâchez pas maintenant. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Amen. Et vous avez cru pour la guérison, la manifestation est presque là, lâchez pas maintenant. C'est pas le temps de lâcher, c'est le temps d'accélérer. À la fin d'une course, combien de vous, vous avez déjà fait les courses de pied, par exemple? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà couru, ou juste pour le fun même, ou vous avez vu ça, vous avez regardé les Olympiques? Laissez-moi vous dire, quand la personne qui court est presque rendue, c'est quoi qu'il fait d'habitude? Il sprinte. Il accélère. Amen. C'est pas le temps de dire, oh, je vais ralentir, je suis presque rendu. Non, il regarde même pas à côté. Il s'en fiche. C'est ça le truc. J'ai entendu les personnes qui, les athlètes parler de ça. Ils ont dit, le truc, c'est qu'il faut jamais regarder en arrière. Même si tu penses que tu as une marge de 50 pieds entre toi et la prochaine personne qui te suit, il ne faut jamais regarder en arrière. Parce que quand tu regardes en arrière, tu ralentis. Il ne faut même pas regarder à côté. Il ne faut pas regarder à côté. Oh, est-ce qu'il est en... oh, est-ce qu'il va m'avoir? Oh, est-ce qu'il s'approche de moi? Non, on s'en fiche de ce que les autres font. On fixe les yeux sur le but et on accélère et on donne la dernière quantité d'essence que nous avons. On épuise notre réservoir et on va jusqu'au bout. Amen. Et je m'en souviens, il y a quelques années même, j'ai eu la révélation de ça pour l'Église aujourd'hui, de notre temps, de notre génération. C'est comme une course, comment est-ce qu'on appelle ça quand on passe le bâton, une course de relais? De relais. Moi, je suis convaincu que notre génération, nous sommes comme les dernières à courir, les dernières personnes à prendre le bâton. Et les dernières à prendre le bâton sont ceux qui ont besoin d'amener le bâton jusqu'à la fin. Il ne regarde pas à droite, il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas en arrière, mais il court avec tout ce qu'ils ont. Amen. Jusqu'au bout. Amen. Et c'est bon de savoir que... Savez-vous que l'encouragement, ça peut nous aider, hein? Ils ont même fait les tests un peu bizarres. Ils ont pris deux hommes, une fois j'ai lu ça, des scientifiques, ils voulaient voir l'effet de l'encouragement sur l'être humain. Ils ont pris deux hommes, et c'était vraiment un test de haute technologie, hein. Ils ont pris deux hommes, ils ont dit, bon, déchaussez-vous, enlevez vos bas. Ils étaient dans deux pièces différentes, ok, séparées. Et un homme avait besoin de mettre ses pieds et de se tenir dans un bassin d'eau froide, un d'eau glacée. OK? Et ils ont timé la personne, voir combien de minutes est-ce qu'il peut rester là sans sortir. Puis, il était tout seul dans la pièce. L'autre personne était dans une pièce, mais entourée de ses amis. OK? Même chose. Il était là dans l'eau froide. Une personne était là en train de geler toute seule, isolée. L'autre personne avait ses amis de « Vas-y, vas-y, continue un peu plus, quelques minutes de plus, tu peux rester un peu plus. » Et là, je m'en souviens plus de combien de minutes, mais c'était incroyable la différence. Le gars qui avait l'encouragement, il a resté trois fois plus longtemps que l'autre. Amen. Mais sachez aujourd'hui, peut-être vous dites « Mais moi, j'ai personne pour m'encourager. » Mais je suis là pour vous encourager. Et vous avez toute une foule des saints qui vous encouragent. Peut-être vous ne le voyez pas avec les yeux naturels, vous n'entendez pas avec vos oreilles naturelles, mais sachez que ce matin, il y a Moïse, Noé, et tu peux mentionner n'importe qui, la personne que tu préfères le plus de la Bible, ces gens sont là pour vous encourager. On n'a pas besoin de les prier comme quelques-uns l'enseignent. Amen. C'est pas une question de prier ces personnes, de dire, oh, prie pour moi. On n'a pas besoin de leur prière. Mais juste le fait de savoir qu'ils nous encouragent, ça nous fait de quoi, n'est-ce pas? Hallelujah! Et on va courir. Mais comment est-ce qu'on va courir? On va courir, premièrement, avec pureté. Hein? Tout le monde est pureté. Qu'est-ce que la Bible dit ici? On s'est laissé porter ici cet exemple des témoins. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. En particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous et courons résolument à la course qui nous est proposée. Je veux que vous souligniez cette débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche. Si on va courir vers le but et finir notre course et réaliser le plan de Dieu pour notre vie, il faut qu'on court avec pureté. Amen. Et intéressant, surtout le péché. Si la Bible dit qu'il y a des péchés qui s'accrochent facilement à nous. Est-ce que vous avez remarqué? Et quand on parle du péché, souvent tout le monde dit, oh, on parle du sexe, on parle de la drogue, on parle d'alcool, on parle de tel, tel, tel. Mais laissez-moi vous dire qu'on peut aussi inclure l'inquiétude. Amen. On évite à regarder les péchés de la chair, mais il y a des péchés du cœur qui sont plus graves que les péchés externels, donc souvent. Hein? Ça se voit plus, les choses que les gens font à l'extérieur. Mais souvent, les choses qui se passent dans le cœur sont encore pires. La doute, l'incrédulité, l'inquiétude. Débarrassons-nous de toutes ces choses. Amen. Parce que si on est alourdi par le péché, ou pas forcément le péché, savez-vous que des fois, il y a des choses qui sont des bonnes choses qui nous empêchent de faire la volonté de Dieu? S'il y a quelque chose qui prend trop de ton temps, débarrassez-vous. Hein? Il n'y a rien de mal si vous voulez regarder la télévision à l'occasion, mais si c'est un fardeau, si ça alourdit votre marche et votre course chrétienne, laissez-moi vous dire, débarrassez-vous de la télévision. Hein? S'il y a des jeux vidéo que vous aimez jouer, aucun problème. C'est pas méchant. Certains uns, c'est méchant, oui. Mais s'il y a des choses qui prennent trop de ton temps, débarrassez-vous. Peu importe qu'est-ce que c'est, hein. S'il y a quelque chose qui prend trop de ton temps, on vit dans les dernières minutes des derniers jours, on a pris le bâton, c'est à nous d'aller jusqu'au bout et de remporter le prix. Et si quelqu'un, pourrez-vous imaginer quelqu'un dans les Olympiques qui arrive pour faire la course et il est habillé avec les bottes de neige, il a un sac à dos, hein, il a toutes sortes de livres sous les bras, les choses qu'il a autour de cou. Laissez-moi vous dire, est-ce que cette personne va gagner la course? Non. Ça se peut que c'est le meilleur athlète même. Ça se peut que c'est celui qui peut courir le plus vite que n'importe qui. Ça se peut qu'il est le plus fort, le plus entraîné. Mais s'il a trop des choses sur sa charge, s'il est chargé avec les fardeaux, les soucis de ce siècle, avec les péchés ou quoi que ce soit, il ne sera jamais capable de se rendre jusqu'au bout. Examinez votre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui alourdit votre course ce matin? Des bonnes choses ou des mauvaises choses? Si oui, prenez une décision maintenant. Débarrassez-vous. Tanya et moi, on fait l'inventaire maintenant. Il y a des choses que nous... Est-ce qu'il y a des choses qui prennent trop de notre temps, trop de notre énergie? On va se débarrasser. Parce qu'on veut être capable de concentrer sur qu'est-ce qui est vraiment important. Dieu, nos enfants, l'Église, l'œuvre de Dieu ici sur la terre. Amen. On ne veut pas être alourdi par quoi que ce soit. Et vous? Amen. Courons avec pureté. Alléluia. La Bible dit en 1 Corinthiens, chapitre 10, 23, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il y a bien des choses qui sont, c'est bien correct, rien de méchant là, mais est-ce que ça édifie? Est-ce que ça t'aide à courir vers le but? Est-ce que ça t'aide à remporter le prix? Sinon, débarrassez-vous! Amen! Encore, en Corinthiens 10, 31, si donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je me suis dit, si je ne peux pas le faire pour la gloire de Dieu, je ne devrais pas le faire. Amen. Qu'est-ce que vous faites avec les heures que le Seigneur vous donne à chaque jour? Si qu'est-ce que vous faites ne peut pas être fait à la gloire de Dieu, vous devriez vous débarrasser. Sinon, il y a d'autres personnes qui vont aller jusqu'au bout, mais vous, vous serez laissés en arrière. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Courons avec pureté. Deuxième chose, courons avec persévérance. Mon Dieu, persévérance. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas. J'aime tellement la parole vivante que j'ai marquée dans vos notes. Courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Dieu a tracé une piste devant nous et c'est à nous de courir avec persévérance. Galates 6, 9 dit, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle ou quoi? Sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Amen? Lâchez pas, vous allez gagner. Lâchez pas. Si vous lâchez pas, vous gagnez. S'il y a une chose, vous vous rappelez de Winston Churchill, vous savez c'est qui? C'était le premier ministre de l'Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après la guerre, il est venu au Missouri, aux États-Unis, pour faire un message, un speech, on pourrait dire, pour les étudiants d'une université, les personnes qui étaient les diplômés. Lors de la graduation, c'est Winston Churchill qui était invité pour donner l'oratoire. L'oratoire, on pourrait dire. Alors, il est là. Tout le monde attend avec impatience Winston Churchill. C'est un personnage connu partout dans le monde. Et tout le monde s'attend à qu'est-ce qu'il va nous dire. Donc, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Winston Churchill était assis. Il se lève debout et prend sa place en arrière du lutrin. Il regarde tout le monde. Il dit, « Ne lâchez jamais. Ne lâchez jamais. Il ne faut jamais, jamais, jamais lâcher. » Et puis, il s'est assis. Laissez-moi vous dire, si vous ne lâchez pas, vous gagnez. Je suis convaincu. Ça, c'est la pire des choses, c'est de voir les personnes qui sont sur le point de gagner et lâchent. Amen? Alléluia. Persévérez. En Corinthiens 15, 58 dit, « C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. » Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alléluia. Courons avec pureté, courons avec persévérance, courons avec perspective aussi. Lisons dans la parole vivante, c'est dans vos notes, Hébreux 12, 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file et il nous mènera au but. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite de Dieu. Voyez-vous, si vous perdez la perspective dans votre vie, vous allez perdre la course aussi. Mais si vous gardez la bonne perspective, c'est-à-dire vos yeux sont fixés sur Jésus au lieu d'être fixés sur les problèmes, si vous savez que comme Jésus, il a dit, bon, je sais que qu'est-ce que je vais vivre, c'est pas évident, c'est pas agréable, ça va être très difficile de mourir sur la croix. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pourquoi il a dit, s'il est possible, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il savait que ça serait, vraiment difficile de laisser couler son sang, mais surtout d'être séparé d'avec le Père. Et d'être obligé de dire, « Oh, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il savait que ça serait difficile. Comment est-ce qu'il était capable d'aller jusqu'au bout? Il avait la bonne perspective. Pour la joie qui était devant lui. Il a dit, « Bon, je vais regarder au-delà de la peine, au-delà de la souffrance, et je vais fixer mes yeux sur la rémunération. » Amen. C'était quoi la joie qui était devant lui? Tout le monde dit, « C'était moi. » Plus fort. Tout le monde dit, c'était moi. Tout le monde dit, c'est moi sa joie. Alléluia. Jésus a dit, ça vaut la peine, parce que si je ne vais pas jusqu'au bout, je n'aurai pas Donald dans mon royaume. Si je ne vais pas jusqu'au bout, je n'aurai pas René, je n'aurai pas Sarah, je n'aurai pas cette église glorieuse dans la famille. Mais il a dit, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Ça vaut la souffrance, ça vaut le prix. Amen. Même chose pour nous. Je pense qu'on a besoin de regarder au-delà de notre souffrance, au-delà de nos difficultés, et dire, ça va valer la peine. Amen? On ne va pas lâcher, parce que si je lâche, oui, c'est vrai que si je continue, ça va me coûter quelque chose. Ça va me coûter un peu plus de sueur, un peu plus de douleur, un peu plus de prix à payer. Ça va me coûter quelque chose, mais... si je lâche, ça va me coûter encore plus cher. Peut-être que je vais perdre un peu de sueur si je continue. Mais si je lâche, je vais perdre la récompense. Qu'est-ce que vous aimeriez mieux perdre? Un peu de sueur ou la récompense? Laissez-moi vous dire. La récompense est plus grande qu'on n'aurait jamais pensé. Savez-vous, je pense à ça, même pour nous en tant qu'Église. La récompense, si on va jusqu'au bout et on fait un impact, on est capable de faire un impact sur cette ville, sur cette province, sur la francophonie et au-delà, la récompense va être énorme. Il y a des personnes dans notre entourage qui sont destinées pour l'enfer aujourd'hui, qui vont être avec nous pour être au ciel. Ça vaut la peine, n'est-ce pas? Wow! Si on pense aux pays, aux nations qui ont presque pas d'évangile, je pense à Maroc, Tunisie, Algérie, les pays avec des millions de personnes qui sont dans les ténèbres. Et il y a en Tunisie, je pense, 300 dans tout le pays sur 10 millions. Laissez-moi vous dire, est-ce que ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout pour avoir un plus grand pourcentage de Tunisiens au ciel? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir plus de Drummondvillois et Drummondvilloises au ciel? Ça vaut la peine. Donc, courons avec persévérance, mais courons avec perspective. C'est la perspective dont nous avons besoin, c'est une perspective éternelle. Amen. 2 Corinthiens 4, 18 dit, « Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. » Amen. Alors, courons avec pureté, courons avec perspective, courons avec persévérance, mais aussi, quatrième chose, courons avec puissance. Tout le monde dit puissance. Moi, je sais une chose, vous pouvez avoir le vouloir d'aller jusqu'au bout, mais le vouloir n'est pas assez. Vous êtes d'accord? Il y a beaucoup de gens qui veulent faire beaucoup de choses. Ça se peut que Gabriel veut donner 100$ à Sylvain maintenant. Mais je ne sais pas si il a peut-être le vouloir, mais je ne sais pas s'il a le pouvoir. C'est bien facile de vouloir faire quelque chose, mais qu'est-ce que ça prend? C'est pas juste le vouloir, mais le pouvoir. Et on peut vouloir aller jusqu'au bout, mais il faut savoir qu'on ne court pas avec notre puissance, mais on court avec sa puissance. Amen. Et il faut qu'on soit revêtu d'en haut, de la puissance d'en haut. Il faut qu'on soit rempli de l'Esprit Saint. Il faut qu'on compte sur lui pour nous aider à aller jusqu'au bout. Moi, j'aime tellement, c'est pourquoi la Bible dit, Hébreux 12, 2, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. » C'est Jésus qui est l'auteur et le consommateur de ma foi. C'est lui qui m'a donné le pouvoir de commencer dans la course chrétienne et c'est lui qui va me donner le pouvoir de terminer dans la victoire. Amen. Alléluia. Colossiens 1, 29, dans vos notes. Regardez ceci. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force. Tout le monde dit sa force. Qui agit puissamment en moi. Savez-vous que si tu lui fais confiance, sa force va agir puissamment en vous. Sa force, sa capacité. Alléluia. Regardons, Philippiens 1, 6. On va lire deux, trois autres versets dans vos notes. C'est pourquoi je suis persuadé qu'après avoir si bien travaillé en vous, le Seigneur achèvera son œuvre. N'est-ce pas une bonne nouvelle? J'ai confiance en lui. Il la développera. Il la complétera. Il la rendra parfaite pour le jour du retour de Jésus-Christ. Amen. Car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Celui qui vous a appelé est fidèle. Vous pouvez lui faire confiance et il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Amen. Celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Courons avec puissance, mais c'est-à-dire avec sa puissance. Et finalement, si on va aller jusqu'au bout, courons avec passion. Tout le monde dit passion. Alléluia. Persévérance, c'est une chose. Si je persévère, je ne lâche pas. Mais si je cours avec passion, je donne tout. Je me vide pour accomplir et remporter le prix. Amen. Je donne tout. Je pense à Jésus. Jésus, quand il a pris une décision d'aller jusqu'au bout, d'aller se laisser pendre, clouer à la croix, verser son sang, tout en sachant qu'il aurait pu juste dire un mot et 10 000 anges auraient pu venir à son secours, tout ce qu'il avait besoin de faire, c'est dire « Père, au secours !» Et 10 000 anges auraient pu venir et ils auraient pu mettre fin à ces soldats qui étaient en train de le clouer. Mettre fin à toute la ville de Jérusalem, même. Il aurait pu, avec un seul mot, détruire le monde entier à place de souffrir pour nous. Un seul mot. Si vous pensez à ça, vous voyez juste à quel point Dieu nous aime, n'est-ce pas? Dieu nous aime. Jésus a versé son sang. Il est allé jusqu'au bout. Il est même descendu à l'enfer pour nous. Ça, c'est une passion. Il a dit, j'aime, ça c'est mon épouse. Hein, on parle des vieux films où on a des chevaliers qui vont aller faire des exploits pour sauver mademoiselle qui est en détresse. Je vais aller chercher ma princesse. Il n'y a personne, il n'y a aucun ennemi. Il n'y a aucun... quand l'obstacle qui est trop grand, hein? Ils vont nager l'océan, à traverser l'océan le plus large, n'est-ce pas? Ils vont grimper, faire de l'alpinisme même pour monter sur la montagne la plus haute. Ils vont tuer le dragon. Ils vont tuer les plus méchants. Pourquoi? Pour sauver la belle. Mais savez-vous, c'est rien en comparaison avec ce que Jésus a fait. On n'était pas trop belle. C'est vrai, hein? C'est drôle et on rit. C'est correct. Mais c'est vrai dans le fond. Si on pourrait se voir comme Dieu nous voyait dans tout le péché, on était pas mal sale. Laide, hein? Dégueulasse. C'est vrai, hein? Mais il a dit, tu sais quoi? Ça, c'est mon épouse. Et je vois le potentiel. Je vois qu'est-ce que cette, on pourrait dire, épouse, l'aide peut avoir l'air. Je sais qu'elle peut devenir une épouse qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une femme qui est splendide, extraordinaire. Donc, je suis prêt, avec passion, d'aller me livrer pour elle. Ça, c'est l'amour. Je pense à un chevalier qui a fait des exploits. Jésus est le plus grand. Passion. Mais vois-tu, on est appelé à suivre dans ses traces. Et je sais que si je m'examine ce matin comme il faut, je sais que je suis une personne, j'ai beaucoup de passion. Quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Mais comparé à Jésus, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup, 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 beaucoup de route à faire. Amen. Surtout quand je lis le verset qui est dans notre texte ici. Alléluia, verset 2 dans la Bible de français courant, Hébreux 12, 2. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée et maintenant il siège à la droite de Dieu. Mais verset 4 dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Wow! C'est fort, n'est-ce pas? On pense à Jésus et lui, il a versé tout son sang. Mais la Bible dit dans le fond, écoutez, suivez Jésus, mettez vos yeux sur lui, découragez-vous pas, soyez persévérants, allez jusqu'au bout, finissez qu'est-ce que Dieu a commencé dans votre vie, hein, remportez le prix. Parce que dans le fond, si vous êtes honnête avec vous-même, vous n'avez pas résisté jusqu'à verser votre sang. Vous n'étiez pas obligé de donner votre vie. Il n'y a personne ici qui est mort pour le Seigneur, hein? Si ça serait le cas, vous ne serez pas là, vous serez au ciel. Il n'y a personne parmi nous qui a donné notre vie comme martyr. Mais Jésus a dit, on devrait être prêt à le faire. Et je me suis rendu compte, Seigneur, je veux être prêt à le faire. Je veux être prêt à donner ma vie avec passion pour remporter le prix. Amen? Je pense qu'on peut tous s'examiner soi-même, n'est-ce pas? Regardons qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit. Je vais vous donner ça dans trois versions différentes. Acte 20, 24 pour terminer. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Wouh! Je ne vais pas juste finir la course comme quelqu'un a dit. Il faut finir la course avant que la course te finisse. Et trop souvent, on se laisse finir par la course. Ah, c'est pesant. Ah, c'est un fardeau. Ça ne devrait pas être un fardeau. Oui, des fois, c'est un sacrifice, mais quand même, c'est un sacrifice qu'on donne avec joie. Jésus a dit, personne ne peut m'ôter la vie, mais je l'offre volontairement. Même chose, on devrait dire, Seigneur, je suis prêt à donner ma vie pour les nations, donner ma vie pour les hommes, donner ma vie avec passion pour voir l'accomplissement de ton plan. Amen. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Écoutons la parole vivante. Mais peu m'importe, la vie n'est pas pour moi un bien si précieux. S'il faut la sacrifier, j'y suis prêt. Est-ce qu'on peut dire cela ce matin? S'il faut sacrifier ma vie, j'y suis prêt, pourvu que j'atteigne le but de ma course et que j'accomplisse entièrement, tout le monde dit entièrement, la mission que le Seigneur Jésus m'a confiée. Français courant dit, mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout. Disons cela. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout. Amen. Dans ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. On va courir avec pureté, persévérance, perspective, puissance, mais aussi il faut courir avec passion. S'il faut sacrifier ma vie, j'y suis prêt. Laisse-moi vous dire que ça ne veut pas dire forcément que vous aurez besoin de verser votre sang physiquement. Peut-être oui, on ne sait pas. Et ça, ce n'est pas une chose méchante. La Bible dit que ceux qui meurent comme martyrs, ils vont avoir une meilleure résurrection, vous savez? Donc, il y a une place spéciale pour les martyrs, pour ceux qui meurent physiquement pour le Seigneur Jésus. Mais il faut que je sois honnête. Je ne suis pas sûr et certain que je suis toujours 24 heures sur 24 heures prêt à donner ma vie jusqu'à ce point-là. Et c'est pourquoi je fais l'inventaire. Seigneur, sonde mon cœur. Je veux être prêt. Je veux suivre ton exemple. Je veux avoir mes yeux fixés sur toi. Je veux avoir mes yeux fixés sur la rémunération. Je veux être prêt à n'importe quel moment à donner ma vie. Comme je dis, ça peut être mon temps, ça peut être mon talent, ça peut être mon trésor, mais ça peut être aussi un jour mon temple aussi. Amen. Et ça ne serait pas une chose négative, ça c'est la plus belle chose. De donner son temps, son talent, son trésor et son temple avec passion. Savez-vous, je pense que quand c'est ça. Quand on vient, c'est ça que j'aime. Je vois les personnes qui viennent travailler, qui donnent leur temps pour finir quelque chose dans cette bâtisse, et ils font avec passion. Hein? Je vois des personnes, Pauline Bergeron vient travailler, peinturer, et c'est comme, oh wow, elle est comme toute contente. Je vois des personnes comme Joanne qui est là, presque tous les jours, elle travaille, et c'est comme avec une passion. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui s'en viennent. Amen. Mais ça devrait être la même chose quand c'est le temps de donner notre trésor, quand c'est le moment d'une offrande, on devrait donner avec passion. Amen. Quand c'est le temps de servir, pour prêcher, pour chanter, pour changer les couches dans la pouponnière, pour faire l'accueil à la porte, pour passer la mop, pour faire quoi que ce soit, on devrait le faire avec passion. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je le donne. Amen. Et c'est comme ça qu'on va arriver à la fin, comme plus que vainqueur. Et on va remporter le prix. On va se lever debout, on va prier ce matin. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent courir jusqu'au bout?
Amen.
Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. On va, si Sylvain peut jouer un peu pour nous ce matin. Je sais que Tania est avec les enfants ce matin. Alléluia. Alléluia. On va chanter ça dans une minute, hein, jusqu'au bout. Mais avant de chanter, on va prier. Oh Seigneur Jésus, Dieu donne sa grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Et je sais que qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on s'examine soi-même. Est-ce qu'il y a des choses qui alourdissent notre marche, notre course? Si oui, on va se débarrasser, on va courir avec pureté. Est-ce que nous avons des choses qui nous découragent, qui nous donnent le goût de lâcher? Si oui, on va continuer à courir avec persévérance. Est-ce qu'on pense des fois que le prix est trop grand à payer? Si oui, on va courir avec perspective, en gardant les yeux fixés sur la rémunération. Est-ce qu'il y a des fois qu'on se sent pas à la hauteur de la tâche, qu'on se sent trop faible? Sachez que c'est avec sa puissance que nous allons courir. Est-ce que des fois, on manque vraiment la motivation? On donne, mais pas à 100%. Si oui, on va prendre une décision aujourd'hui de courir avec passion. De faire tout ce que nous faisons à 100%. Donc, juste avec tous les yeux fermés, j'aimerais faire qu'est-ce qu'on aime faire tous les dimanches. J'aimerais juste demander, est-ce que quelqu'un ici présent ce matin qui dirait, pasteur, j'ai besoin de la prière. Je ne suis même pas sûr de faire partie de la famille de Dieu. Je ne sais pas si j'ai une place réservée pour moi au ciel ou non, mais j'aimerais avoir cette assurance avant de quitter aujourd'hui. Juste avec tous les yeux fermés. Sachez que Dieu est bon, il vous aime, il a envoyé son Fils unique. Et si tu confesses avec ta bouche aujourd'hui le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est un don gratuit. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, pasteur, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus? Je te lève la main, je vais prier pour toi. Est-ce qu'il y a une personne, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus? N'aie pas honte de Jésus. La Bible dit que si tu confesses Jésus devant les hommes, il te confessera devant le Père. Mais si tu le renies devant les hommes, il te reniera devant le Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Sinon, on va tous prier cette prière avec la personne qui a levé la main. C'est merveilleux parce que la Bible dit que tous les anges des cieux se réjouissent, même si un seul pécheur se répand. Donc, prions cette prière, surtout toi qui as levé la main, priez cette prière de tout ton cœur. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur, qu'il est mon Sauveur, il est mon Maître. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre, je vais t'obéir. Ma vie ne m'appartient plus. C'est toi qui m'as acheté par ton propre sang et je t'appartiens. Je crois de tout mon cœur que Jésus est ressuscité des morts, qu'il vit éternellement. Viens vivre en moi par l'Esprit Saint. Je suis maintenant ton enfant. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se réjouir avec la personne qui a donné sa vie au Seigneur ce matin? Alléluia. Toi qui as levé la main, j'aimerais, avant que tu partes, je veux être certain que tu as une Bible. Si tu n'as pas une Bible, on peut te donner une Bible et on veut t'encourager à continuer avec le Seigneur. On va chanter ce matin jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes prêts à chanter?